Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En Ouganda, la Cour constitutionnelle a abrogé la loi dite anti-pornographie en vigueur depuis 2014. Des organisations de la société civile dénonçaient certains articles comme l'interdiction de porter une jupe courte. Cette loi qualifiée de pornographique et pénalisait des comportements et activités comme le port de la mini-jupe ou des textes de chansons jugés trop osés. Plusieurs associations ont fait campagne pour l'abrogation de ce texte, dénonçant le harcèlement contre les femmes en raison des vêtements qu'elles portent. En 2014, la chanteuse Panadol Wa Basadja avait passé plus d'un mois en prison après la sortie d'un clip suggestif. Selon la loi anti-pornographie, elle encourait 10 ans de prison. Au Zimbabwe, un homme a été inculpé pour meurtre après la mort en juillet de son épouse mineure au cours d'un accouchement. Les Nations Unies ont condamné les circonstances qui ont conduit à la mort d'Anna Mashaya, 14 ans, et une pétition avait recueilli plus de 92 000 signatures. Atirarami Mumberume est accusé de meurtre pour ne pas avoir conduit Anna à l'hôpital quand c'était nécessaire. Il est aussi poursuivi pour relations sexuelles avec mineurs. Les parents d'Anna sont accusés d'avoir tenté de dissimuler l'âge de leur fille en présentant un faux certificat de naissance aux enquêteurs. Le mariage avant 18 ans est illégal au Zimbabwe depuis 2016, mais une fille sur trois est mariée avant la majorité, voire une sur deux dans certaines zones rurales. Forte augmentation des disparitions de femmes et de filles au Pérou, 5 par jour avant la pandémie, 8 pendant le confinement en 2020 et désormais 16 par jour. Une progression inquiétante, alarme le Bureau de la Défense du Peuple, précisant qu'il s'agit principalement d'adolescentes. Au cours du premier semestre, 2891 femmes ont été portées disparues. Près des deux tiers sont des mineurs, selon Eliana Revolar, une responsable de cet organisme. C'est un chiffre alarmant, d'autant plus qu'il existe une relation entre les disparitions de femmes et les fémicides, souligne Madame Revolar. Les familles déplorent que la police et la justice n'enquêtent pas sérieusement sur les disparitions rapidement classées sans suite.
Parole de femme.
Le Mali peine à progresser en matière d'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes handicapées, malgré les traités et conventions ratifiés en leur faveur. Pour les personnes vivant avec un handicap, la vie n'est pas facile, notamment pour les femmes, qui sont souvent victimes de discrimination sociale. Un reportage de Mariam Kouyaté à Bamako.
Selon les statistiques de l'OMS, 15% des 20 millions de Maliens vivent avec un handicap et 8% sont des femmes. Malgré les efforts faits jusque-là, les personnes vivant avec un handicap sont toujours confrontées à des problèmes dans la société malienne. Les femmes souffrent encore plus que les hommes. Atuma Gakou est la présidente de l'Association malienne des femmes handicapées.
Les femmes handicapées vivent pratiquement les mêmes difficultés que les autres femmes, mais il y a un plus. Si je dis il y a un plus, parce qu'il y a l'estigmation, il y a la marginalisation. La plupart sont dans les zones rurales où il n'y a ni infrastructure adéquate, ni de commodité. Parce que si tu es fille handicapée ou femme handicapée, tu es obligé de faire ton ménage toi-même. Donc la situation est très difficile. Elles sont méprisées dans le service.
Ami Doumbia est diplômée sans emploi. Depuis 5 ans, elle peine à décrocher un emploi à cause de son handicap moteur.
J'ai fait électromécanique, j'ai aussi fait le CAP en électricité. Malgré ces diplômes, je n'ai pas encore eu de boulot. Les gens me jugent par mon physique et non par mes connaissances. Dans notre société ici, c'est l'apparence qui compte le plus.
Oumou Koulibaly, elle se débrouille dans la fabrication du savon noir. Elle est également handicapée moteur. J'évolue dans une petite entreprise de savon noir. Je suis handicapée, je le sais, mais j'ai toutes mes facultés mentales. Avec mon business, j'ai frappé à toutes les portes pour pouvoir faire évoluer mon entreprise. Mais hélas, nous sommes considérés comme des personnes à moitié. Il y a aussi le problème du mariage, car dans la société malienne, le mariage est fondamental et pour de nombreuses femmes vivant avec un handicap, c'est un rêve difficile à réaliser. Awa Sissoko, mère de 3 enfants encore célibataires.
Vraiment, très difficile pour nous de se marier. Certains parents nous voient comme des malédictions. Beaucoup refusent que leurs fils nous marient. D'autres prétendent qu'on leur fera des enfants infirmes. Les hommes préfèrent juste coucher avec nous pour leur plaisir. Sinon, le mariage, on n'en parle pas.
Bien que l'État malien fournisse certains efforts afin d'améliorer la condition des personnes en situation de handicap au Mali, avec des subventions et les réalisations de projets, il reste d'énormes défis à relever pour améliorer leur quotidien. Mariam Kouyati Bamako, VOA Afrique.
L'industrie minière est l'un des piliers de l'économie sud-africaine, mais la main-d'œuvre dans ce secteur reste essentiellement masculine. Une organisation regroupant des femmes veut changer la donne. Women in Mining South Africa tente en effet d'aider les jeunes femmes à se lancer dans la filière. Un reportage de Linda Givetash à Johannesburg, relaté par Jacques Aristide.
Bele Sebetlele est géologue, employée par la compagnie minière Harmony Gold Mining. Pour la jeune femme de 29 ans, il s'agit d'un choix de carrière tout à fait en harmonie avec ce qu'elle a toujours aimé, les sciences et la recherche. Les femmes représentent moins de 15% de la main-d'œuvre minière sud-africaine, une situation qui ne facilite pas leur intégration dans cette industrie.
Je devais descendre dans une mine souterraine pour faire le boulot. Il y avait cet homme qui n'arrêtait pas de me dire ceci. « Non, non, Bailey, nous n'allons pas t'écouter. Tu es si jeune que tu peux être ma fille ou ma petite-fille et je ne vais pas t'écouter. »
Après 6 ans de carrière, Bailey croit avoir établi des liens de confiance avec ses collègues masculins. Elle est d'avis toutefois que son parcours, parsemé d'embûches, aurait pu être différent avec un soutien approprié. C'est la raison d'être de l'organisation à but non lucratif Women in Mining South Africa. Cette année, l'ONG a donné le coup d'envoi à un programme au profit de 42 jeunes femmes, dont Bailey, avec pour objectif de les épauler dans leur métier.
Je pense que dans ces secteurs dominés par les hommes, le chemin peut s'avérer très solitaire pour les femmes et sans soutien ou conseil, elles peuvent jeter l'éponge très rapidement. Donc il y avait certainement ce besoin de les guider et de les soutenir.
L'interdiction du travail des femmes dans les mines sud-africaines n'a été levée qu'en 1996. L'organisme Minerals Council South Africa a mené une enquête sur les conditions de travail des femmes dans l'industrie minière.
Les conclusions sont généralement positives, mais il y a des problèmes qui persistent, comme le manque de toilettes et d'équipements de protection individuelle qui conviennent aux femmes.
Le Conseil des minéraux affirme que les compagnies minières sont en train de prendre des mesures pour assurer la sécurité et le confort des femmes au travail. Quant à l'ONG Women in Mining, elle veut également accroître le nombre de femmes dans l'industrie minière. Elle dissémine les informations aux plus jeunes et entraîne notamment aux nombreux emplois dans le domaine.
Les jeunes filles, dès la 8e ou la 9e année, commencent à voir les différents visages et les différents métiers dans cette industrie et pourront ainsi avoir une idée des matières qu'elles ont besoin d'étudier plus tard. Les gens commencent à voir qu'il ne s'agit pas seulement de porter un casque et une salopette.
Pour Bailey, l'aide qu'elle reçoit pour relever les défis au quotidien fait une différence au travail. Elle voit plus haut et se réjouit de l'arrivée davantage de femmes dans son domaine.
À notre siège social, des femmes comptent parmi les nouvelles nominations. Des femmes commencent à occuper des postes stratégiques. Vous voyez de jeunes femmes débarquer. Je pense que n'importe quelle jeune femme peut le faire avec les bons conseils et avec le bon état d'esprit.
L'ONG Women in Mining a étendu son programme. Elle tente maintenant d'accompagner les femmes à mi-carrière qui veulent gravir les échelons dans l'industrie minière.
En Grande-Bretagne, 300 avocats ont signé une pétition réclamant que le club londonien Garrick admette les femmes. Comme d'autres prestigieux clubs anglais, le Garrick est réservé aux hommes. Parmi les signataires figurent Cherie Blair, épouse de l'ancien Premier ministre Tony Blair, qui a rappelé une anecdote des années 70 lorsqu'ils étaient tous les deux stagiaires. Elle devait rester à l'extérieur du Garrick pendant que son superviseur emmenait Tony Blair, étudiant comme elle, à l'intérieur. L'acteur Nigel Avers a signé la pétition disant qu'il était temps pour le club de 190 ans d'entrer dans le 21e siècle. En 2015, le Garrick avait organisé un vote sur l'ouverture aux femmes qui avait recueilli 50,5% des voix alors qu'il fallait les deux tiers.
Si je ne pouvais...
Deux jumelles sénégalaises ont décroché leur baccalauréat à 13 ans. Aminata et Rama Diaw sont devenues les plus jeunes candidates au Sénégal à obtenir le diplôme qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Leur exploit a été largement salué par les médias et les autorités qui leur ont offert une bourse à l'étranger. Mais leurs parents ont refusé en invoquant leur jeune âge. Un reportage d'Aïcha Diara, le récit est d'Abdourahmane Dia.
Aminata et sa sœur jumelle Ramatoulaye sont devenues une sensation subite sur Internet. La famille essaie de gérer cette nouvelle notoriété qui est le fruit d'une décision des parents qui ont poussé leur fille à tester leurs limites.
Mon père, lui, il avait constaté, de par nos notes, que nous pouvions faire plus. Du coup, son ami l'a encouragé et il nous a fait sauter le C2 et le CM. La veille du CFE du mois, on nous a dit qu'on ne pourrait pas faire CFE. Du coup, mon père a vu ça comme une motivation et il nous a fait sauter encore deux places. La 6e et la 5e. Nous sommes allés directement en Tanzanie.
Et pour les jumelles de Yumble, dans la banlieue dakaroise, les vacances scolaires ne sont pas faites que de repos et de divertissement.
Chaque jour, on faisait une nouvelle leçon en référence à l'année prochaine. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça qu'on a sauté toutes ces classes.
Leur réussite au bac est saluée par beaucoup qui voient un exemple à donner aux jeunes. Le gouvernement leur a offert une bourse dans une école d'élite à l'étranger. Mais le cas Jarisow, une autre brillante étudiante qui avait disparu en France avant d'abandonner ses études, a fait réfléchir par deux fois les parents des jumelles.
Leur père a poursuivi toutes ses études au Sénégal. Il a tout eu en restant au Sénégal. Pourquoi pas les filles alors? Elles n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour s'en sortir. Elles vont rester ici pour éviter les surprises.
Aminata et Ramatoulaye, qui veulent poursuivre des études en génie civil, trouvent bizarre leur nouvelle notoriété, mais les parents sont là pour veiller au grain.
Monde féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Au Bénin, de nombreux jeunes sont exposés au sous-emploi. Le taux de chômage, qui était de 25% en 2020, cache un niveau de sous-emploi élevé, estimé à 72%, selon un rapport de la Commission économique pour l'Afrique. L'entrepreneuriat s'impose comme moyen susceptible de renverser la tendance, même si le chemin paraît jonché de difficultés. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé, nous fait rentrer dans l'univers de la jeunesse qui lutte pour s'en sortir, une jeunesse à la fois forte et vulnérable.
Le Bénin dispose de plus de 2 millions de chômeurs selon les récentes données de l'INSAE, l'Institut National pour la Statistique et l'Analyse Économique. Même avec les diplômes en poche, il devient difficile de trouver un poste adapté. Beaucoup sont devenus conducteurs de taxi-moto avec le master ou la maîtrise. Elle a un master mais peine à trouver un emploi à la taille de ses compétences.
Vraiment, le recrutement au Bénin, c'est pas du tout encourageant. On a le diplôme, mais quand tu n'as pas des moyens, quand tu n'as pas des connaissances, tu ne peux pas avoir d'emploi au Bénin.
La question du chômage fait partie des points essentiels sur lesquels Patrice Talon a promis apporter une solution définitive. Mais les jeunes continuent de penser qu'il y a plus de théorie que de pratique dans la lutte contre le chômage au Bénin. En attendant d'avoir une réponse favorable aux nombreux dossiers qu'il a déposés, Edgar est conducteur de taxi-moto.
Rien n'a encore changé. C'est toujours resté figé et rien n'a encore bougé. Les jeunes continuent toujours d'attendre que le nouveau gouvernement fasse quelque chose en leur faveur. Mais il reste encore du pain sur la planche, comme on le dit.
Face à l'incertitude, l'auto-entrepreneuriat devient la solution inévitable. Beaucoup de jeunes sortent aujourd'hui de l'université avec une telle détermination, même s'ils n'ont aucune idée de comment financer leur projet.
C'est auto-employé, on ne peut pas attendre l'État. L'État ne veut pas réagir.
Je ne veux pas tomber dans le chômage. D'ici que je suis en train d'étudier, je dois au moins faire quelque chose pour le moment, même si c'est vendre quelque chose en attendant. Je vais faire ça d'abord.
Jean-Philippe Oussou s'est lancé dans le lavage des voitures. Pour lui, il fallait faire quelque chose au lieu d'attendre que l'État s'en charge.
Et aujourd'hui, rentrer en Afrique, c'est surtout la création de jobs, la création de valeur ajoutée et prouver que nous, Africains, sommes capables de faire des choses.
Mabel Adekambi est l'une de ces Béninoises qui a su s'imposer dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle est la promotrice d'une marque de liqueur qui s'arrache aujourd'hui sur le marché. C'est le choix qui s'est imposé à elle après ses études en France.
Quand on arrive au Bénin, on se rend compte que tout est à faire. Le bouche à oreille a tellement bien fonctionné que je suis surprise qu'un produit à la base fait pour être dégusté à la maison entre amis se transforme en une entreprise aujourd'hui.
Même avec une bonne stratégie, d'autres hésitent à faire le saut dans l'inconnu sans un minimum de capital, explique Robin Ngoloni, chef de ligne devenu pisciculteur.
Pour moi, il ne faut pas de grands moyens pour faire de grandes choses. Il suffit forcément que vous ayez une idée claire de votre destination. À petit coup, vous pouvez vous y mettre à la chose et quitte à après passer dans une logique de réinvestissement et aller beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas de naître grand, mais il s'agit plutôt de commencer petit et de devenir grand.
L'État est conscient du poids de l'entrepreneuriat dans la réduction du chômage au Bénin et s'implique avec le concours de l'ambassade des États-Unis au Bénin dans le financement des jeunes à travers divers programmes. De nombreux jeunes en sont sortis outillés et aguerris. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
This is the winner's world.
soit les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Entre parenthèses.
Au Cameroun, les peuples autochtones de la forêt dénoncent leur faible implication dans la vie politique nationale. La sous-représentativité de ces communautés est telle qu'elle n'a qu'un seul conseiller municipal sur plus de 10 000 que compte le pays. Notre correspondant Emmanuel Juntap a rencontré des représentants des peuples autochtones.
Le peuple autochtone se limite seulement au niveau des conseillers de la commune. Au niveau régional, il n'y a pas. Sénateur, il n'y a pas. Député, il n'y a pas.
Jeannette Aboua est issue de la communauté des peuples autochtones de forêt. Elle vit à Djoum, à plus de 276 km de Yaoundé, au sud du Cameroun. Elle milite au sein d'une association qui déplore la faible participation des autochtones de forêt à la vie politique nationale.
Quand il s'agit de la politique, on ne nous consulte pas. On n'a même pas d'abord l'information. Les gens ils sont arrivés dans ma communauté. Nous, on croyait qu'ils venaient peut-être pour établir les cartes. Après, ils disent que non, ils sont en train d'établir les cartes électeurs. Et sur ce, ils ne prenaient même pas en compte peut-être des âges, des enfants. Tout le monde qu'eux, ils trouvaient seulement qui était là. Assois-toi, on veut ton nom. La personne ne connaît même pas. Et c'est comme ça que ça se passe aussi.
Au Cameroun, les habitants originels de forêt sont les Baka, les Bagili et les Bédan.
J'avais d'abord fait les dossiers avant et notre liste n'était pas passée. On avait échoué ces premiers tours-là.
Emmanuel Missolo est l'unique conseiller municipal issu des peuples autochtones de forêt du Cameroun. Il appartient au groupe Baka et a pu se faire une place au soleil après 3 tentatives.
Le deuxième tour, maintenant, je suis entré toujours dans les listes de RDPC. Le comité central a décidé, tous les 3 candidats devaient faire une liste. Dans notre liste, on était au nombre de 7.
Un seul représentant des peuples de forêt dans un conseil régional paraît encore marginal, selon Emmanuel Missolo, conseiller municipal de la commune de Djoum, au sud du Cameroun.
Il y a des représentants qui sont là-bas pour représenter les autochtones, mais ils n'ont pas de voix. Quand il a envie de parler, on lui dit pardon, attends que les vraies personnes parlent. C'est ça qui est le grand problème.
Seuls 3 chefferies traditionnelles de 3e degré des peuples autochtones de forêt sont reconnues au Cameroun. Pas suffisant pour accélérer l'accès à la citoyenneté de cette couche encore vulnérable. Armel François Médé est un Bagili de la localité d'Akom 2, dans la région du Sud.
Le problème se pose sur les actes de naissance. Quand un Bagili a l'acte de naissance, il peut avoir sa pièce de carte d'identité et carte de lecteur.
Au cours d'une rencontre qui a regroupé 10 associations de peuples autochtones de forêt à Yaoundé, les experts ont souligné la nécessité d'un accompagnement spécifique de ces populations pour une meilleure participation à la vie politique. Armel Ngono, du Centre pour l'environnement et le développement.
C'est de retourner justement à la base, telle que je prévois la déclaration des Nations Unies en faveur des peuples autochtones, et d'améliorer leur participation au travers de leur instance propre de prise de décision.
La loi électorale prévoit la prise en compte des différentes composantes sociologiques lors de l'élaboration des listes de candidats au scrutin, sans toutefois préciser les quotas réservés, par exemple, aux peuples autochtones de forêt. Emmanuel Juntap Yaoundé, VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact, bon courage et à très bientôt.
Arrête.